André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais. 7e cassette, 2e face, page 183. Le samedi suivant, Hélène arriva dans l'auto conduite par Bidiver. Gaspard était allé au-devant d'elle sur la route. Il voulait éviter qu'elle vît l'ennui de Niklas et il craignait, tout comme Niklas, qu'Hélène ne les prît en pitié et leur fît quelques dons. Hélène sauta de l'auto. Elle portait une robe de soie blanche. Jamais Gaspard ne l'avait vue autrement que vêtue d'un pantalon et d'une blouse. Il éprouva une admiration nouvelle. « Tout va bien, » lui dit-elle, tandis qu'ils faisaient ensemble quelques pas sur la route. « Je mène une vie active, beaucoup de sport. Je conduis l'auto de Bidiver et j'ai déjà visité les studios de cinéma dans la cité près de Chemy, C-H-E-M-Y. Je suis sûr que je reverrai maman Jenny. Monsieur Residor m'a promis que nous habiterions ensemble le château. »
Tu es sûr que tu la reverras ?
Absolument sûr, dit Hélène. Nous avons obtenu de nouveaux renseignements.
Alors, tes rêves sont réalisés ? Conclut Gaspard. Hélène resta un moment silencieuse.
Monsieur Residor veut informer Monsieur Drapeur. « Je crois que c'est bien. »«
Tout s'arrangera, » dit Gaspard.
« Tout s'arrangera, » reprit Hélène. « Et maintenant, toi... »
Gaspard la regarda longuement. « Je vais retourner à Lominval, » dit-il. Elle se hâta de lui assurer qu'elle irait le voir à Lominval, toutes les fois qu'elle aurait un moment, car elle allait être très occupée. Elle voulait travailler pour devenir une bonne actrice.
« Si tu ne peux pas venir, ne te tourmente pas, » dit Gaspard.
« Mais si, je viendrai. »
Elle l'embrassa et remonta dans l'auto. Elle fit des signaux à Gaspard pendant les 5 secondes que la voiture mit à gagner la première courbe du chemin. Gaspard retourna auprès de Niklas. Personne ne lui posa de questions. Jérôme et Ludovic répétaient un air sur leurs instruments. Ils jouaient en sourdine. Chapitre 11. Comment on vient à corriger ses défauts. Le lendemain, Niklas donna de nouveaux soins au cheval qu'il avait entouré de couvertures et il eut la satisfaction de constater qu'il se portait beaucoup mieux. Le cheval put se mettre debout et brouter l'herbe.
« Je crains tout de même que cela le reprenne. Il est bien vieux et les nuits sont fraîches déjà. » « Il faudrait nous emparer de ce cheval pie. »«
Quel cheval pie ?»
s'écria Gaspard.
« Je suis allé cette nuit jusqu'à la forêt, » dit Niklas. « Je ne pouvais pas dormir. Dans l'allée, j'ai vu au clair de lune un cheval pie. Peut-être le même que celui que tu as monté malgré toi, Gaspard. C'est un cheval abandonné, sans aucun doute. »
Gaspard se souvint que lorsqu'il s'était perdu dans la forêt avec Ludovic et Jérôme, ils avaient entendu une galopade lointaine.
« C'est un beau cheval, » dit Gaspard, « mais il est sauvage et il ne se laissera jamais atteler. »
On bavarda sur ce sujet une partie de la matinée et l'on déjeuna de bonne heure. Gaspard devait quitter ses amis et rejoindre Lominval. Il leur avait annoncé la veille au soir qu'il partirait au début de l'après-midi. On se préparait à son départ sans rien dire. Quand ils eurent mangé, Niklas donna à Gaspard une musette garnie de quelques vivres et lui remit un peu d'argent. Ludovic et Jérôme lui firent cadeau de quelques feuillets de leurs chansons comme souvenir.
Pour traverser la frontière et entrer en France, tu passeras par la forêt, dit enfin Niklas. Nous allons t'accompagner jusqu'à un carrefour de sentier que je connais maintenant. Il y a un sentier qui va vers le château et l'autre descend sur la Meuse, du côté de Vireux, où tu prendras le train. Un homme de trente m'a indiqué ce carrefour qui est marqué par un grand bouleau. Tu te méfieras. Les douaniers circulent sur la pente qui descend vers la vallée. Dès que tu seras sur la pente, tu prendras à travers bois. Si on t'arrête, tu ne risques rien d'autre que d'être renvoyé chez ta tante à Lominval
et c'est là que tu veux aller. »
Ils accompagnèrent Gaspard jusqu'au carrefour, où ils parvinrent après une demi-heure de marche. Ils voulaient aller plus loin, mais Gaspard assura qu'il préférait partir seul. Ils se dirent adieu.
« Tu trouveras plusieurs carrefours encore, » dit Niklas. « Mais d'après l'homme de Trinthe, il faut aller tout droit et prendre sur la gauche seulement dans un bois de sapin. »
Gaspard se retourna à deux reprises afin de saluer ses amis, mais bientôt les branchages l'empêchèrent de les distinguer. Il marcha encore pendant 2 minutes, puis il s'arrêta. Il ne pouvait oublier que l'autre sentier conduisait au château et il éprouvait une grande peine à s'en éloigner. Il s'assit pour réfléchir. Il revoyait l'enfant tel qu'il l'avait rencontré à Lominval, sauvage et pur dans sa volonté tenace de rejoindre sa famille et son pays. Aujourd'hui, Hélène n'était plus cet enfant. Bien qu'elle eût retrouvé le paysage de son enfance et qu'elle eût toutes les chances d'entendre bientôt parler de Maman Jenny, quelque chose allait de travers. Il manquait Maman Jenny, et si Hélène voulait être avec elle un jour, il semblait qu'il aurait mieux valu qu'elle aille à l'autre bout du monde et qu'elle traîne les pires jours de misère que de rester dans ce château. Gaspard se perdait en de telles réflexions. Il ne parvenait à rien décider. Malgré les extravagances d'Emmanuel Rosidor, Hélène avait raison de se fier au premier renseignement sûr qu'on lui eût donné, et elle aurait l'avantage de rester en bon terme avec M. Drapeur. « Tout est bien, » répétait Gaspard. Cependant, il éprouvait la nécessité de revoir encore une fois le visage, les cheveux et les yeux d'Hélène. Il revint sur ses pas jusqu'au carrefour. Niklas et ses garçons s'étaient éloignés. Il écouta longuement. Il ne put percevoir leur voix dans le lointain des sous-bois. Après avoir encore hésité, il prit le sentier vers le château et marcha pendant 2 grandes heures. Ce sentier se perdait au milieu des acacias où Gaspard, avec Jérôme et Ludovic, s'étaient empêtrés lors de leur première expédition. Il franchit le mur à travers une trouée, mais au lieu de chercher à rejoindre le ruisseau, il suivit le mur dans la direction opposée jusqu'à une vieille porte où aboutissait un chemin encombré de ronces. Le chemin le mena derrière le château. De ce côté, les bâtiments semblaient inhabités. Gaspard escalada une gargouille et atteignit au premier étage un œil de bœuf dépourvu de carreaux. Il s'y glissa la tête la première et par bonheur, ses mains rencontrèrent la rampe d'un escalier de bois où il put sauter sans faire trop de bruit. Il demeura un moment immobile afin de s'assurer que personne ne l'avait entendu, puis il descendit l'escalier. Cet escalier n'aboutissait pas au rez-de-chaussée, mais dans un sous-sol. Des quantités de légumes s'y trouvaient rangés sur des claies. Plus loin, le sous-sol n'était qu'une salle immense, peuplée de piliers de pierre. Gaspard l'explora afin de trouver un escalier plus important qui le mena dans une région habitée. Il espérait se tenir aux aguets, à l'angle de quelques couloirs ou derrière un meuble, et attendre qu'Hélène vînt à passer afin de la voir par surprise et de lui parler une dernière fois à l'insu de tous, comme à Lominval et comme sur le pont du yacht. L'escalier qui se présenta à lui était en pierre. Il le monta, mais à chaque étage, il aboutissait à des paliers étroits sur lesquels donnaient des portes fermées à clé. Gaspard dut aller jusqu'au 4e pour trouver une porte ouverte. Il pénétra dans une pièce qui était une salle de billard, en traversa une autre où il y avait 3 pianos et des pupitres, et tomba enfin sur un escalier plus important. Lorsqu'il fut redescendu au 2e, il entendit quelqu'un qui montait et entra dans une salle qui semblait un musée d'habillement. On y voyait des personnages en cire, vêtus de toutes sortes de costumes, dames hollandaises, généraux d'empire. Les figures de ces personnages semblaient le regarder et suivre ses démarches. Il quitta cette pièce en hâte. La suivante était occupée uniquement par des masques suspendus au mur ainsi qu'à des colonnes de bois. Gaspard eut un frisson dans le dos. Il voulut encore se hâter. il se rendit bientôt compte qu'il se trouvait dans une sorte de galerie dont les issues devaient être dissimulées par des tentures sur lesquelles il y avait encore des masques. Il s'efforça de garder son sang-froid. À vrai dire, les masques, malgré leurs regards troués et leurs mâchoires d'animaux, avaient une beauté singulière. L'effroi le pénétrait, mais il se dit qu'il devait les regarder bien en face. Il y avait aussi des figures de pierre et de marbre, étrangement paisibles. Gaspard découvrit une tête immense, enveloppée d'une chevelure de paille, et qui avait des yeux comme des rubis et la bouche grande ouverte. Il se contint et regarda la grande figure. Au milieu de la bouche, il y avait un bouton de porte. Doucement, malgré sa crainte, il le saisit et un ventail s'ouvrit sur un vaste palier qui devait appartenir à l'escalier central. Gaspard respira. Il résolut de s'avancer avec plus de prudence. La rampe de l'escalier était une rampe à balustre. Il se glissa le long de cette rampe et descendit lentement vers le premier étage. Les degrés étaient couverts de vastes tapis. Gaspard songeait qu'il ne pouvait rien rencontrer de plus terrible que les masques, et cependant, lorsqu'il eut dépassé la grande courbe de l'escalier, il fut en présence d'une apparition qui lui glaça les os. Au bas de l'escalier, un homme venait à sa rencontre. Il avait mis le pied sur la première marche. Gaspard n'était séparé de lui que par une douzaine de degrés. L'homme s'était arrêté. Ses yeux exprimaient la cruauté et la moquerie. Gaspard avait reconnu sans hésitation la figure de Parpoil encadrée d'une barbe rousse. Parpoil et Gaspard demeurèrent immobiles pendant une seconde, après quoi Gaspard tourna les talons et regrimpa l'escalier 4 à 4. Du moment que Parpoil se trouvait au château, il n'y avait pas de doute qu'Hélène serait de quelque manière victime de ses combinaisons. Gaspard ne pouvait d'abord songer qu'à se mettre hors d'atteinte. Sans réfléchir, il monta jusqu'au palier. Là, il poussa une porte. Derrière cette porte, un nouvel escalier aboutissait au grenier. Jamais Gaspard n'avait vu un tel grenier. C'était une jungle où l'on apercevait des armoires, des caisses, des baldaquins, des piles de baquets, des rangées de perruques et même des harpes. Il se jeta dans ce fouillis avec un sentiment d'espoir. Jamais personne ne l'y retrouverait. Il plongea d'abord derrière une malle et s'appliqua à faire le tour du grenier jusqu'à ce qu'il arrivât à une nouvelle issue qui lui permit de gagner les étages inférieurs et l'air libre. Il entendit bientôt les pas de Parpoil qui cherchait ici et là avec hâte. Puis le silence se fit. Gaspard s'avança à 4 pattes derrière les caisses et se faufila entre 2 armoires. À l'extrémité de ce passage, il y avait un mannequin sans tête, vêtu d'un habit de soirée mangé au mythe. Au moment où Gaspard débouchait du passage, la tête de Parpoil apparut au-dessus du mannequin, comme si le mannequin lui-même avait soudain sorti sa tête. Gaspard sentit des picotements sous la plante des pieds et rebroussa chemin. Il eut le bonheur de rencontrer des tentures entre lesquelles il se glissa. Il y avait des dizaines de tentures suspendues à des fils de fer. Gaspard résolut de rester immobile à cet endroit pendant des heures s'il le fallait. Le silence continuait à régner dans le grenier. Au bout d'une demi-heure, Gaspard fut pris de crampes et se coula sous les tentures afin de se dégourdir un peu. Il parvint à un étroit espace libre, entouré de bandes de soie avec des dessins japonais. Gaspard poussa une des bandes de soie juste à l'endroit où se dessinait la main brodée d'un personnage. Il fut soudain atrocement paralysé lorsqu'il vit et sentit cette main qui saisissait la sienne. Parpoil était derrière la bande de soie et le tenait à sa merci. Gaspard se démena avec tant de violence que les tentures se décrochèrent alentour et embarrassèrent son ennemi. Il réussit à dégager sa main. Il se réfugia sous un monceau de tables alignées, puis il tâcha de regagner le mur du grenier. Une fois encore, Parpoil se manifesta. Comme Gaspard passait devant une comptoise vide, il aperçut le visage de l'homme à la place de l'horloge et ses mains, qui étaient derrière le carreau du balancier, ouvrirent brusquement la petite porte. Parpoil s'élança en criant « Je te tiens, mon garçon !»
Gaspard recula pour échapper à l'étreinte et son talon buta sur des tringles à rideaux. Il tomba à la renverse. Parpoil lui-même tomba. Gaspard fut le premier relevé. À ce moment, juste devant lui, se présenta un petit escalier. Il se laissa glisser sur la rampe. C'était l'escalier même par lequel il s'était introduit. Il retrouva la lucarne qu'il escalada, puis il s'accrocha à la gargouille, par où il dégringola dans l'herbe de l'arrière-cour. Il n'était pas cependant au bout de ses peines. Il courut dans le parc jusqu'au premier bois, franchit deux taillis, retrouva un sentier, mais comme les bois enveloppaient le parc de toutes parts, Gaspard ne sut pas quelle direction suivre. À tout hasard, il prit à gauche. Il n'avait pas fait 100 pas qu'il voyait Parpoil qui venait à lui. Pourquoi cette obstination à le poursuivre? Quelle importance il y avait-il à se saisir d'un jeune garçon qui ne demandait qu'à disparaître sans espoir de retour? « Tu ne m'échapperas pas !» cria encore Parpoil. Il ne restait à Gaspard qu'à courir de toutes ses forces dans le sentier. Il hésitait à se jeter dans les bois qui étaient encombrés d'épais fourrés où il risquait de s'empêtrer. Mais ce sentier semblait d'une longueur désespérante. Parpoil perdit peu de terrain. Il paraissait se ménager comme s'il avait la certitude que le garçon succomberait tôt ou tard à la fatigue. Ces bois qui entouraient le château n'étaient pas moins bizarres que le château lui-même. Le sentier aboutissait à une clairière ronde, assez peu étendue, et qu'il était impossible de franchir. Gaspard se trouva bientôt acculé au fond de cette clairière. Tout ce qu'il pouvait espérer, c'était de retarder le moment où Parpoil l'appréhendrait. Dans ce lieu, qui avait dû jadis servir à des réunions intimes, s'élevaient ici et là de hauts chardons, des haies d'épilobes et des buissons de camérisiers. Gaspard tenta de déjouer l'homme parmi ses obstacles. Il dut bientôt y renoncer, car il se fourvoya entre des buissons accolés à la charmille. Il fut obligé de faire face à Parpoil, qui se tenait immobile, à 10 pas de lui, et jouissait de son triomphe. « Maintenant, jeune homme, nous allons nous expliquer. Je vais couper une bonne branche et te fouetter jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut se mêler de ses propres affaires. Entends-moi bien, jeune homme. Si tu meurs sous les coups, personne ne le saura jamais. Et si tu te réveilles, tu te débrouilleras pour fuir à tous les diables. Non pas que je veuille te tuer. Une simple leçon où tu risqueras ta vie avec plaisir, puisque tu aimes les aventures. Entends-moi bien, jeune homme, il n'y a rien de plus beau que les rêves, comme tu disais. Hélène est en train de rêver en ce moment. Il ne faut pas la troubler. »
Que voulait dire Parpoil? Gaspard le regardait en face. Le visage encadré de barbe rousse était animé d'un sourire mielleux. Mais soudain, ce visage changea d'expression. Gaspard y lut l'étonnement, puis les yeux s'agrandirent d'effroi, en même temps qu'on entendait un bruit pareil à celui d'une bourrasque qui se serait soudain élevée au milieu des feuillages. Une grande ombre passa au-dessus des buissons devant Gaspard, qui vit alors le cheval Pie retomber sur ses sabots et s'élancer sur Parpoil. L'homme avait fait demi-tour, mais le cheval l'eut bientôt rattrapé et se mit à le mordiller aux épaules et aux reins. Parpoil s'était lancé dans une fuite éperdue le long du sentier. Il appelait vainement au secours. Le cheval le talonnait et déchirait ses vêtements. Gaspard s'était mis lui aussi à courir à leur suite pour savoir ce qui allait advenir. Parpoil était en proie à une telle épouvante qu'il disparut bientôt avec le cheval au milieu des bois. Au bout d'une demi-heure, le garçon parvenait à un carrefour et là, il vit le cheval Pie qui broutait l'herbe paisiblement. L'homme avait disparu. Gaspard s'approcha doucement du cheval qu'il reconnut. En somme, c'était un cheval comme tous les autres. Il avait simplement des caprices sauvages. Un cheval abandonné ou perdu, ainsi que le disait Niklas. L'animal releva la tête et secoua sa longue crinière. Ses yeux brillaient comme un doux feu. Il laissa Gaspard s'approcher. Gaspard le saisit par le cou dans ses bras et enfouit son visage au milieu de la crinière. Gaspard aurait voulu dire ceci. « Mon cheval, je ne reverrai plus Hélène. Montre-moi de nouveau les beaux pays, la forêt, la Meuse, et fais-moi retrouver Hélène. » Le cheval n'avait pas bougé. Il semblait attendre que le garçon disposât de lui. Gaspard se décida à sauter en croupe. Au moment où il appuyait ses mains sur les flancs du cheval, celui-ci se déroba soudain et s'en fut, au petit trot, par une grande allée. Gaspard le regarda tristement, qui s'éloignait. À une centaine de pas, le cheval s'arrêta et tourna la tête. Gaspard s'avança de nouveau, et de nouveau le cheval prit le trot pour s'arrêter un peu plus loin. Ainsi, ils parcoururent 2 ou 3 kilomètres sous les futaies. Enfin, le cheval s'élança à travers bois. Gaspard, bien qu'il ne pût espérer le rejoindre, s'obstina dans cette vaine poursuite. Quand il l'eut perdu de vue, il ne cessa pas de courir. Il parvint à bout de souffle à une lisière et s'effondra dans l'herbe, tandis qu'il entendait encore un galop lointain et sourd sur l'humus des bois. Gaspard resta longtemps étendu. L'après-midi entier s'était écoulé. Le soleil touchait déjà la cime des forêts. « Je trouverai bien la pente, se disait Gaspard, et je descendrai sur la Meuse. Je dormirai dans la salle d'attente de la gare de Vireux. » Il avait perdu sa musette et il crevait de faim. Il mangea quelques mûres qu'il trouva dans les ronces de la lisière, après quoi il chercha à s'orienter. Il se trouvait sur la bordure d'une longue prairie, encastrée dans un golfe de la forêt. Les fleurs y étaient répandues à profusion. À son extrémité, la prairie s'élargissait et donnait sur des terres assez vastes, au fond desquelles s'élevait une maison. Gaspard se dirigea de ce côté, et dès qu'il fut arrivé au bout de la prairie, il reconnut la maison de Théodule Résidor, le propre fils d'Emmanuel. Comment n'avait-il pas songé à lui dans toutes ces conjonctures? Si le père laissait son fils vivre à l'écart, n'ayant sans doute pas trouvé dans sa progéniture de quoi satisfaire des ambitions étincelantes, néanmoins, il y avait certainement entre eux des relations affectueuses, car l'un et l'autre montraient d'excellents sentiments. Gaspard pouvait à tout moment trouver conseil et appui auprès de Théodule. Il arriva devant la maison comme la nuit tombait. Théodule lui-même ne faisait que rentrer. Comme Gaspard s'avançait, il vit une camionnette qui débouchait du bois et d'où Théodule descendit, ainsi que Marval, son vieil employé. Théodule accueillit le garçon sans montrer aucune bienveillance.
« Bonsoir, Gaspard Fontarel, » dit simplement Théodule. « Tu viens bien tard. »«
C'est par hasard, » dit le garçon. « Je ne fais que passer. Je retourne à Lominval. » Théodule demeurait aussi sourd que lorsque Gaspard lui avait fait sa première visite.
« Entre, » dit Théodule, « pourquoi ne m'as-tu jamais donné de nouvelles de l'enfant d'envers ?»«
Je peux t'en donner maintenant. »«
Trop tard, beaucoup trop tard. Les électriciens sont au château. »
Il laissa Gaspard tout interdit de cette nouvelle qui n'avait aucune signification et il appela la servante pour qu'elle leur servît le repas sur le champ. Gaspard vit avec joie la femme poser une soupière fumante sur la table de la cuisine. Théodule ne disait plus rien et Gaspard chercha vainement à lui conter des bribes de son histoire. L'autre était muré dans sa surdité. Peut-être saisissait-il à tout hasard certains mots, mais ces mots n'avaient pas le don d'éveiller sa curiosité. Quand on eut mangé l'omelette, la servante apporta un bol plein de groseilles à maquereaux.
« Je viens du château !»
dit enfin Théodule de sa voix de fausset.
« Mon père n'a pas de cervelle. Qui a jamais eu de cervelle dans notre famille? Nous avons bavardé ensemble une bonne heure, mais c'est la dernière fois que j'entre moi-même dans son salon. J'ai connu toute l'histoire il y a 3 jours. Un domestique m'avait prévenu. J'ai questionné mon père, qui était charmant comme d'habitude. Quoique j'ai bien déçu ses ambitions, il reste charmant avec moi. Il a eu la patience de m'écrire sur un papier tout ce que je ne pouvais pas saisir par signe.
« Que s'est-il passé ? » demandait Gaspard sans aucun espoir d'être entendu.
« Ce qui s'est passé ? »
répliqua Théodule. «
Ces mots avaient par miracle traversé le plomb qui lui bouchait les oreilles.
« Je me doutais bien que l'enfant d'Anvers était une fille, » reprit-il. « J'ai réussi à la voir de loin, dans le parc du château. J'ai reconnu l'enfant fugitif. Mon père m'a enfin expliqué qu'un nommé Gaspard Fontarel avait conduit Hélène Drapeur au château où elle espérait retrouver des traces de sa famille. Mais il a téléphoné à Drapeur après ta première visite. Drapeur, conseillé par son secrétaire, a prié mon père d'accueillir Hélène et de lui raconter des histoires propres à la persuader qu'elle apprendrait au château des nouvelles de sa famille. Bref, favoriser ses idées tout le temps qu'il faudrait jusqu'à ce qu'elle oublie ses rêves qui n'avaient pas de sens, son pays qui n'existait pas, sa famille dispersée ou perdue. J'ai appris aussi que par poil, vous avez espionné, toi et Hélène, dans le jardin de Temschen. Il a eu l'audace de laisser Hélène filer avec toi pour mieux la tromper. Il est arrivé avant vous au château de Résidor.
Théodule frappa du poing sur la table.
Ils ont raison. Ce n'est pas à nous de savoir ce que nous avons à faire. Ils ont tort tout de même de ne pas faire attention, quelquefois, à une idée d'enfant. Hélène a un pays qu'elle doit retrouver. Mon père a été remué lorsqu'Hélène lui a parlé de son pays. Mais il prétend qu'il doit se méfier de sa sensibilité.
Quel pays ? Demandait Gaspard. On ne peut pas rêver mieux que le parc avec le lac, les palmiers et les bouleaux. Et j'ai bien lu le nom de génie écrit sur un volet. Théodule écoutait maintenant les paroles de Gaspard avec une attention extrême. Le nom de génie lui parvint.
Génie existe, tu m'entends, j'en jurerai. Ce n'est pas chez mon père qu'on la trouvera. Il y a quelque chose à comprendre qu'on n'a pas encore compris.
Théodule expliqua qu'Emmanuel Résidor s'était engagé à réaliser les projets de M. Drapeur avec toute son habileté d'entrepreneur de spectacle et non sans espérer qu'il tirerait profit d'Hélène pour monter certains films. En un rien de temps, Hélène avait été conquise. Cette nouvelle vie la changeait de la routine austère où elle était maintenue par M. Drapeur. Elle ferait du cinéma et du même coup, elle croyait ainsi courir sa meilleure chance de revoir Maman Génie. Elle était prisonnière, plus que jamais. Occupée du matin au soir à répéter des rôles, à faire de la gymnastique, à conduire des autos de course. Par surcroît, M. Résidor avait l'intention de la spécialiser dans des rôles acrobatiques. Pour quelle raison ? Il n'en savait rien lui-même. Chaque jour, on la conduisait au studio. À une vingtaine de kilomètres au sud, des actionnaires avaient monté une petite cité du cinéma où les metteurs en scène pouvaient bénéficier de studios spacieux et de tous les paysages d'une région extrêmement variée. Théodule connaissait bien cette cité bâtie à la limite du bourg de Chemy. Il fallait certes louer M. Résidor et ses comparses d'avoir voulu réaliser d'excellentes conditions pour leur film. En tout cas, ce lieu de féerie ne pouvait que séduire Hélène. Elle assistait aux prises de vue et l'on promettait de la faire participer à un film dès qu'elle aurait appris les éléments du métier qu'un vieil acteur se chargeait de lui inculquer sous la direction éminente de M. Résidor. À tout instant, Hélène était étroitement surveillée sans qu'elle s'en doutât. Elle serait de plus en plus isolée dans ce milieu nouveau. Personne ne pouvait lui parler sans la permission de M. Résidor. Cet après-midi même, Parpoil était revenu au château dans un état piteux. Il racontait qu'il avait surpris dans le bois le jeune Fontarel et que celui-ci avait pour complice un homme de forte taille monté sur un cheval pie. Parpoil avait été attaqué et jurait ses grands dieux que Gaspard servait d'indicateur à quelques bandits qui cherchaient à faire un coup de main dans le château.
Voilà les dernières nouvelles, conclut Théodule. Moi-même, je ne suis plus autorisé à entrer au château et mon père, avec son goût des dispositifs et bourrifant, a fait venir ce soir les électriciens de la cité pour mettre des sonneries dans tous les recoins de son palais.
Jamais Hélène ne pourrait connaître les mensonges dont on l'entourait. « Si elle savait, » disait Gaspard.
« J'ai vu les yeux d'Hélène lorsqu'elle est venue rôder par ici, pour la première fois, »
dit Théodule.
« Je ne peux pas croire qu'elle renie un jour sa famille et tout ce qui lui est cher pour jouer la comédie. »
Fin
de la deuxième face de la septième cassette, Le pays où l'on n'arrive jamais, par André Dautel, page 198.